revenu seul.
C'était Christophe Ondelat sur Europe 1. Christophe Ondelat que nous retrouvons demain de 14h à 15h. Envie de réécouter les récits de Christophe Ondelat? Aucun souci, ils sont disponibles en podcast sur europe1.fr et l'application Europe 1. Excellent dimanche après-midi avec Virginie Giraud qui chaque week-end de 15h à 16h vous plonge au cœur de l'histoire juste après les infos de Brendan Varret sur Europe 1.
Écoutez Europe 1, il est 15h. Et tout de suite, on retrouve Brendan Warette pour les informations. Bonjour Brendan.
Bonjour Virginie, bonjour à tous. À la une de l'actualité, cette nouvelle vidéo choc de deux otages israéliens retenus par le Hamas. Elle a été diffusée hier et on voit deux hommes de 47 et 64 ans qui s'expriment probablement sous la contrainte. L'un des otages décrit une situation difficile en raison de nombreux bombardements israéliens sur la bande de Gaza. Il appelle le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à négocier pour parvenir rapidement à un accord. Et on a appris il y a quelques minutes qu'une délégation du Hamas se rendra lundi en Égypte pour répondre à la récente contre-proposition d'Israël en vue d'une trêve dans les combats et de la libération d'otages. Aux États-Unis, près de 200 manifestants pro-palestiniens ont été interpellés hier sur trois campus américains. Le mouvement se poursuit aux quatre coins du pays et s'intensifie. En France, plus de blocus devant Sciences Po Paris. Un accord a été trouvé entre la direction et les étudiants pro-palestiniens et la droite dénonce une capitulation de l'établissement. Elle est également pointée du doigt par ce politologue et essayiste au micro ce matin de Lénaïque Monnier sur Europe 1.
Toutes les personnes qui observent ce qui est en train de se passer à Sciences Po, aussi bien à l'administration de Sciences Po, le communiqué qui a été donné, que la ministre des Universités, Mme Retailleau, on a du mal à imaginer que leurs mains tremblent à ce point. Quand on voit que l'administration Biden, elle, n'hésite pas, et personne ne comprend pourquoi on permet à ce qu'à Sciences Po se passe ce qui se passe, c'est-à-dire l'extension du domaine de l'antisémitisme, et ça en toute impunité. Quand on voit en plus le communiqué du Hamas, et pour encourager ces types d'actions dans les campus, aussi bien aux États-Unis qu'en France, qu'est-ce que dit le Hamas? Il termine en disant « Les étudiants d'aujourd'hui sont les leaders de demain ». Alors si on veut éviter que des étudiants soutenant une organisation terroriste soient les leaders de demain, je pense qu'il n'y a que la sanction.
Joseph Massescaron, politologue et essayiste dans Europe 1 Midi Week-end. Deux violents incidents ont éclaté hier soir à Givors, dans le Rhône, près de Lyon. Des groupes de jeunes très mobiles ont semé le chaos dans le centre-ville en allumant des incendies et en tirant des mortiers. Deux voitures de police municipale ont été incendiées plus tôt dans la journée. Quatre mineurs ont été placés en garde à vue après l'agression d'un autre mineur par cinq jeunes. Et dans un contexte d'une montée de violence chez les jeunes, le débat sur le durcissement des sanctions contre les parents de mineurs délinquants ressurgit. Alors faut-il aller jusqu'à supprimer les allocations familiales pour les parents de mineurs récidivistes? Eh bien, selon notre sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD, 72% des Français répondent oui. Du sport et du football, suite et fin de la 31e journée de Ligue 1 aujourd'hui. La rencontre entre Metz et Lille vient de se terminer. Les nordistes se sont imposés 2-1. Ils montent provisoirement sur le podium en attendant le déplacement de Brest à Rennes ce soir. À 21h également, Marseille reçoit Lens en ligne de mire pour les deux équipes, les dernières places européennes.
Europe 1.
Europe 1 15h03, au cœur de l'histoire, c'est avec Virginie Giraud.
Merci Brendan Warret. On vous retrouve dans une heure pour un nouveau point sur l'information.
Europe 1, 15h, 16h,
au cœur de l'histoire. Virginie Giraud.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver comme chaque week-end sur Europe 1 pour plonger ensemble au cœur de l'histoire. Aujourd'hui, je vous propose une émission entre l'Italie et l'Amérique. Oui, il y a bien une thématique qui unit ces deux pays, une histoire de loyauté et de parrain. Aujourd'hui, on parle de la mafia. On commence avec un récit consacré au plus mythique des boss. Il a une bouille de bébé jovial, mais il ne faut pas s'y fier. Il a du sang plein les mains. C'est Al Capone, alias Scarface. D'ailleurs, comment se fait-il qu'il a cette cicatrice? Il l'a faite à la guerre? C'est ce qu'il raconte, mais moi je ne suis pas dupe, j'ai la vérité et elle est beaucoup moins reluisante, je vais vous la raconter. De Brooklyn à Chicago, en passant par le massacre de la Saint-Valentin, vous saurez tout du mafieux le plus célèbre des États-Unis et des raisons de sa chute. Une chute dont l'incorruptible Elliot Ness est à l'origine. Et c'est ainsi qu'Al Capone fera la réputation de sa nouvelle prison de haute sécurité, Alcatraz. Je recevrai ensuite l'écrivain Jacques de Saint-Victor, l'auteur d'un livre sur l'histoire de la mafia. Avec lui, on essaiera de comprendre comment elle est apparue en Italie au XIXe siècle et pourquoi elle existe toujours maintenant. Mais tout de suite, je vous emmène dans les bas-fonds de Chicago sur les pas de Scarface.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit.
Nous sommes à New York à la fin des années 1910, dans un bar de Coney Island. Alphonse Capone a environ 18 ans. Il y a déjà une petite frappe bien connue des gangsters du coin. C'est pour ça qu'il a été embauché par Frankie Yale, un parrain de Brooklyn, pour faire le videur à l'entrée de son établissement de nuit. C'est un bon poste pour observer les gens qui vont et qui viennent dans le club. Mais ce soir-là, Al Capone est distrait par une jolie fille, une poupée qu'il adorerait mettre dans son lit. Il s'approche d'elle et lui susurre des choses pas très catholiques à l'oreille. La jeune femme exaspérée le repousse, mais Al en remet une couche. Il n'aurait pas dû. La demoiselle échappe à son étreinte et se réfugie dans les bras d'un client du club, un certain Frank Galluccio. Il est lui aussi l'un des gros bonnets de la mafia, et cette poupée, c'est sa petite sœur. Frank s'approche d'Al et le ton monte. Frank Galluccio est un sanguin. Il sort un couteau et frappe directement au niveau du visage. La lame taille trois belles estafilades sur la joue gauche d'Al Capone. La plus profonde trace un sillon rouge allant de l'oreille à la commissure de la bouche. Le jeune videur porte la main à son visage, le sang coule entre ses doigts, la blessure est profonde, elle laissera une cicatrice. Dans cette affaire, le jeune Capone gagne un surnom, Scarface. Mais pas question de dire la vérité sur une bagarre aussi désolante. Ce qui compte pour se faire un nom, c'est l'art de se raconter. L'histoire d'Al Capone commence un peu avant sa naissance. Son père et sa mère, Gabrielle et Teresa, ont décidé de quitter leur petite ville d'origine près de Naples. L'Italie est en plein Risorgimento, son processus d'unification qui s'étend sur tout le 19e siècle. Il se caractérise par de nombreux conflits armés qui appauvrissent les plus humbles, démodent la vieille noblesse et promet des jours heureux à une nouvelle classe bourgeoise. Les Capone ne sont pas de ceux-là. Ils rêvent donc de faire fortune dans le Nouveau Monde. Ils font partie de la première vague d'Italiens à s'installer en Amérique. Le couple Capone emménage à Brooklyn, un quartier de New York alors très pauvre. Gabrielle est barbier, Teresa est couturière. C'est là que naît Alphonse Gabriel en 1899, notre Al Capone. Il a sept frères et sœurs. Les Capone tiennent à l'éducation de leurs enfants et Alphonse est placé dans une école catholique. Mais sa véritable école, c'est la rue. La loi du plus fort prévaut sur l'autorité. Dans les quartiers pauvres comme à Brooklyn, on assiste à l'émergence de gangs. Les gangsters recrutent très tôt parmi les jeunes garçons. On fait ses classes en apprenant à voler, à intimider et à se battre. À 14 ans, l'indiscipliné Al a déjà quitté les bancs de l'école, mais il a sa place dans des gangs comme le Junior 45th, puis dans le Brooklyn Reapers. Ses larcins lui permettent notamment d'aider sa famille. Évidemment, les grands caïds ont toujours un œil sur les jeunes pousses, et il faut croire que le petit Al, avec sa bouille ronde de gentil garçon, a un gros potentiel. C'est vrai qu'on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Mais il va pas nous la faire à nous. C'est pas par hasard qu'on finit par être recruté par le Five Points Gang qui tient une partie de Manhattan. Le Five Points Gang, c'est la terreur de New York. Au départ, il était constitué d'hommes d'origine irlandaise, mais il recrute aussi dans la jeunesse italienne de la dernière vague d'immigrés en Amérique. À la même époque, Capone travaille comme videur dans un bar de Coney Island pour Frankie Yale, un autre parrain. Il le voit un peu comme son mentor. Et c'est vrai qu'il faut le canaliser, le gamin. C'est dans ce bar qu'il se bagarre avec Frank Galluccio pour avoir mal parlé à sa sœur. L'estafilade au couteau sur sa joue gauche lui vaut donc le surnom de Scarface. Mais c'est pas bien dans le milieu de dire qu'on s'est pris une raclée par un autre gangster. Alors, Hall préfère raconter qu'il s'est fait sa cicatrice sur le front en Europe. C'était ça, la guerre dans les tranchées. Croira à son mensonge qui veut, mais pas nous. Ses biographes attestent qu'Al Capone n'a jamais été enrôlé dans l'armée. En 1919, Scarface est envoyé à Chicago par ses patrons de New York. C'est là qu'il se met au service d'un des grands patrons de la pègre, Johnny Torrio. Il travaille comme videur dans un de ces clubs dont les étages servent de bordel. C'est certainement là qu'il attrape la syphilis d'ailleurs. La syphilis existe toujours, soit dit en passant. C'est un peu l'équivalent du sida à cette époque. Il faut attendre les années 1905-1910 pour la soigner efficacement. Mais vous vous doutez bien qu'à 20 ans, Al Capone ne se préoccupe pas des premiers symptômes de la syphilis et la maladie se met en dormance. Cette année 1919, c'est surtout un tournant économique pour la mafia américaine. La Première Guerre mondiale est terminée, on arrive bille en tête dans les Roaring Twenties, les années folles, ce moment où tout l'Occident est à la fête. Les cabarets prospèrent, les jupes des femmes raccourcissent et l'alcool coule à flot. Beaucoup trop d'ailleurs. Cette débauche ne plaît pas du tout aux puritains américains, les descendants des Pilgrim Fathers, les pères fondateurs, qui ont le sens de la fête d'un mormon en dépression. En même temps, il faut reconnaître que l'alcool fait des ravages aux États-Unis depuis une quarantaine d'années. Pendant la conquête de l'Ouest, la première chose qu'on ouvrait dans une nouvelle bourgade, c'était un saloon. Certains États, comme le Maine, avaient commencé à limiter les ventes d'alcool dans les années 1840-1850. D'autres ont progressivement suivi cet exemple. C'est comme ça qu'apparaissent les Dry States, dans lesquels il est interdit de distribuer et de produire de l'alcool. Je suis certaine que vous allez rire si je vous dis qu'il existe encore des dry counties aujourd'hui, des comtés dans lesquels on ne sert pas d'alcool. Si vous voulez une bière, il faut aller dans le comté d'à côté, voire dans l'état voisin. Bref, la décompression qui suit la Première Guerre mondiale jette la jeunesse en mal de fête dans les bars et pour juguler le fléau de l'alcoolisme qui se répand comme une maladie sociale, les États-Unis votent le Volstead Act en 1919. Cette mesure sanitaire est alors portée par un républicain, Andrew Volstead. Maintenant, il est interdit de produire, de distribuer et de vendre de l'alcool partout dans le pays. Vous imaginez bien que les Américains se mettent à ressembler à des adolescents qui font le mur pour aller à la fête. Les speakeasy, ces bars secrets, fleurissent comme de la mauvaise herbe dans une prairie au printemps. Et dans ces bars, on fait tout ce qui est interdit. On joue aux jeux d'argent, on écoute de la musique noire, jouée par des noirs, du jazz donc, on danse et surtout, on boit. Le marché de l'alcool devenu illégal est alors entièrement aux mains de la pègre qui s'enrichit considérablement. Le Volstead Act, qui avait pour but de purifier la jeunesse américaine en moralisant le quotidien, est donc un échec retentissant. Le premier job d'Al Capone pour Johnny Torrio à Chicago, c'est d'accoster les passants pour les convaincre d'entrer dans le bar bordel de son patron. Et comme il est doué et ambitieux, Torrio lui fait vite confiance. Capone sait enjôler ou donner du coup de poing quand il le faut. Il devient donc le bras droit de Torrio dès 1920. Ce qui lui aurait valu une telle promotion n'est pas certain à 100%, mais on pense que Capone aurait tué pour le compte de Torrio le plus grand parrain de Chicago, Big Jim Colosimo, qui gérait plus d'une centaine de maisons closes. Du coup, Torrio reprend les affaires de Big Jim et devient le seul boss de Chicago. Pendant 5 ans, Torrio possède le monopole du marché noir de l'alcool dans la région. Vous vous doutez bien qu'une telle source de revenus suscite des convoitises. En 1925, Torrio tombe dans une embuscade. Il survit, mais décide d'aller se mettre au vert en Italie. Il laisse son juteux business à son jeune second, Al Capone. À 26 ans, Al Capone est le nouveau patron de l'outfit de Chicago, l'un des plus gros gangs de la région. Jusque-là, les parrains étaient plutôt discrets. Mais Al Capone adore la lumière. Il cultive son réseau avec des célébrités et des politiciens, parmi lesquels le maire de Chicago en personne. À cette époque-là, la presse américaine connaît un grand succès. Pour vendre du papier, elle est prête à raconter les histoires les plus sordides, à divulguer les détails les plus stupéfiants des faits divers, mais aussi à créer des stars. En cette fin d'année 1920, l'Amérique est prospère et fantasme clairement sur les bad boys, les gangsters qui vivent une existence excitante, sans règles. C'est un peu la version urbaine du Wild West, l'Ouest sauvage. Dans ce contexte, la presse érige en héros Al Capone, le roi de Chicago. C'est un vrai personnage. Il porte un costume croisé impeccable, des chemises sur mesure, des caleçons en soie qui valent un mois de salaire pour un ouvrier et un éternel borsellino blanc. C'est vrai qu'il est pas mal du tout, hein, même s'il est un peu rondouillard. Avec ses yeux clairs et son sourire charnu, il ne manque pas de charme. Capone, devenu une icône, lance une mode. Le gangster chic. Très imité, jamais égalé. Il devient même le cliché du mafieux dans les films. On est à l'époque où, au cinéma, les mafieux sont cool et triomphent de la police. Mais les temps changent. L'automne 1929 marque la fin de la belle saison. Al Capone fait un faux pas, alors que dans les tours toutes neuves de Wall Street à New York, les rois de la finance s'agitent. Dans un instant, je vais vous raconter comment Al Capone aurait commandité le massacre de la Saint-Valentin. Un piège tendu à une mafia rivale, un plan tordu signé Scarface. Restez avec nous sur Europe 1.
15h, 16h,
au cœur de l'histoire, sur Europe 1. Entre passé et présent, héritage culturel et création contemporaine, l'artiste Jiang Chong-er réinterprète les traditions chinoises millénaires au musée Guimet. Des installations monumentales et spectaculaires, une réflexion visionnaire sur le temps, un parcours sensoriel et spirituel comme un pont entre la France et la Chine. Gardien du temps, à découvrir dès maintenant au musée Guimet, avec Europe 1.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron, ça chipote pas là.
Ça chipote pas là où ?
Chez Lidl, dès demain, les 6 chipolatas sont à 2,49€ les 330 grammes au lieu de 3,49€, moins 28%.
2,49€ les 6 chipolatas.
Et c'est du porc français, hein ?
T'es mal.
Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. 7,55€ le kilo, transformé en France. Offre valable jusqu'au jeudi 2 mai. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction de Paris Match.
Pour les 75 ans de Paris Match, nous vous proposons un numéro événement. Les 7 acteurs historiques du Splendide réunis pour un entretien et des photos exclusives. Un reportage exceptionnel avec les gueules cassées de l'armée ukrainienne et les tableaux de Notre-Dame de Paris entièrement restaurés.
Paris Match, numéro spécial anniversaire de 220 pages en vente 3 semaines.
Aujourd'hui, 3 millions de Français se privent de produits d'hygiène essentiels, faute de moyens. Pourtant, se sentir propre, c'est aussi vital que de se nourrir. Depuis 20 ans, l'association Don Solidaire rend possible la distribution des produits d'hygiène auprès des personnes en situation de précarité. Grâce à Don Solidaire, Alia n'a plus à choisir entre manger ou acheter des couches pour sa fille. Chloé peut aller en cours sans crainte, même si elle a ses règles. Lucas, fraîchement préparé, va confiant à son entretien d'embauche. Rejoignez notre chaîne de solidarité sur donsolidaire.fr.
Au cœur de l'histoire, sur Europe 1.
De 15h à 16h, Virginie Giraud.
Cet après-midi, dans Au cœur de l'histoire sur Europe 1, je vous raconte le destin d'Al Capone. Il est maintenant le boss de Chicago, mais ce n'est pas assez. Deux mafias dans une ville, c'est trop. Voilà comment il va se débarrasser de ses rivaux grâce à un piège délirant. Nous sommes le 14 février 1929 à Chicago. C'est le soir de la Saint-Valentin. Al Capone est en vacances en Floride. Le climat à Chicago est difficile, mais ce n'est pas le vent qui l'embête, ça. Il a l'habitude. Par contre, la montée du gang irlandais Northside commence à les lui briser menu. Son gang, le Outfit de Chicago, les affronte de plus en plus souvent en mode loi du talion. On compte des morts des deux côtés. En ce soir de la Saint-Valentin, donc, les Northside ont rendez-vous dans un entrepôt pour leur business illégal d'alcool. Bugs Moran, l'un de leurs chefs, est en retard. Il n'est pas encore arrivé quand une voiture de police débarque. Les policiers armés jusqu'aux dents en sortent et arrêtent tout le monde. Les 7 gangsters présents dans l'entrepôt sont alignés de dos contre le mur et la police ouvre le feu. Bugs Moran assiste à la scène de loin. Il est éberlué. Ce ne sont pas des méthodes de flics. Ça, c'est signé. C'est du Capone tout craché. Alors il s'enfuit en courant. Le procédé n'est pas très classieux. Mais Al Capone jure ses grands dieux, avec un petit sourire en coin, que ce n'est pas lui qui a commandité le massacre de la Saint-Valentin. Il est en Floride. Cet épisode commence à entacher la figure d'Al Capone dans l'opinion publique. Bon, ce n'est pas grand-chose pour le moment.
Parce que le gros des problèmes des gens ne vient pas du massacre de la Saint-Valentin, mais de ce qu'il se passe cette année à Wall Street. Nous sommes à la bourse de New York en octobre 1929. La bulle spéculative n'a pas cessé d'enfler ces derniers mois grâce à une nouveauté dans le système économique, l'achat à crédit. L'économie s'emballe alors que la production de marchandises baisse parce que les capitaux vont vers la bourse plutôt que d'aller dans l'industrie. Depuis plusieurs mois, le cours des actions dégringole constamment. À partir de la mi-octobre, les propriétaires se mettent à vendre massivement leurs actions pour récupérer leur capital. Mais plus il y a d'actions à vendre, plus leur prix baisse. Le jeudi 24 octobre, ce fameux jeudi noir, la bourse est inondée de titres à vendre, mais il n'y a pas d'acheteurs. Quelques investisseurs arrivent à faire un bon coup, mais ils sont rares. Ceux qui se sont endettés pour spéculer paniquent. Le mardi suivant, plus de 16 millions de titres sont à vendre. Les opérateurs de la bourse n'arrivent plus à suivre le rythme. C'est ce jour-là que certains spéculateurs ruinés se suicident en se jetant du haut des buildings. Le Dow Jones s'effondre. Une immense crise économique est en train de commencer. Elle va se répandre à travers le monde et frapper comme une onde de choc les bourses européennes. Aux États-Unis, c'est le début de la Grande Dépression. La misère va s'installer durablement, mais elle prend un peu son temps. Quelques mois qui ressemblent un peu à des vacances pour Al Capone. En effet, à ce moment-là, il fait de la prison pour port d'armes. Il a plaidé coupable et s'en est sorti avec une petite peine. En sortant de prison, Scarface est encore le chouchou de la presse. En septembre 1930, le journaliste Geo London ramène une interview exclusive de Capone dans son canard français intitulé « Le Journal ». Geo London décrit un cabot qui ne se lasse pas de se faire admirer. Al Capone est un séducteur, il parle bien et il ne manque pas d'esprit. Le journaliste l'interroge habilement sur les meurtres d'autres mafieux et demande à Capone s'il ne craint pas de se faire arrêter en rentrant à Chicago. Mais le mafieux se plaint malicieusement de la chaleur de Floride. Il serait bien mieux dans la ville du vent. La suite de sa réponse est stupéfiante. Je ne résiste pas à l'envie de vous la lire. Mais moi, j'ai autre chose à faire que tuer des gens. J'ai mes business. Seulement, on s'imagine que je tue. Parfois même, des gens m'écrivent pour me demander de commettre des crimes pour leur compte. Une grande dame anglaise m'a écrit un jour pour m'offrir 20 000 livres sterling si je venais passer le week-end chez elle et si j'en profitais pour la débarrasser d'un voisin gênant. Ridicule. Vous voulez un cigare ? Al Capone est à deux doigts de se faire passer pour un ange. Avec le début de la Grande Dépression, il a même ouvert une soupe populaire. Évidemment, les journalistes étaient conviés à l'événement. Mais dans les faits, les historiens sont incapables de dire combien de temps a duré cette entreprise et combien d'argent Al Capone a investi. La renommée de Scarface, l'élégant mafieux à la balafre sur le visage, dépasse les frontières. En France, de nombreux articles lui sont consacrés. Le journal des débats politiques et littéraires le surnomme « le boss des racketeurs et l'empereur des bootleggers », c'est-à-dire ceux qui font de la contrebande d'alcool. En novembre 1930, sa bouille de gentil dandy fait la une de l'irrévérencieux Time Magazine. Al Capone est au sommet de sa gloire. Al Capone est devenu l'archétype du gangster chic. Mais Elliot Ness a bien l'intention de l'envoyer en prison, mais pas n'importe laquelle. Je vous raconte tout dans un instant, à tout de suite sur Europe 1.
15h, 16h.
Au cœur de l'histoire, sur Europe 1.
Europe 1.
Rejoignez-nous sur l'antenne d'Europe 1. C'est la famille, on est tous ensemble.
Je vous écoute hein, tous les jours, c'est de la bonne humeur. Je ris en voiture en vous écoutant quand je rentre du travail. Et j'ai vraiment passé un bon moment.
On vous embrasse Valérie, faites
bravo.
Oh, ça part bien les amis.
Qu'est-ce que c'est la chanson du matinalier?
Vous connaissez pas la chanson du matinalier?
Non. L'actu c'est ma meilleure copine. Elle me fait rire quand elle me déprime. Vous connaissez pas celle-là?
Non, je connaissais pas. Non.
C'est extrêmement important que vous puissiez nous dire ce que vous avez sur le cœur.
Je vous écoute toujours avec beaucoup d'attention et je vous remercie de votre aide.
Europe 1.
Les Français ont envie d'avoir des images positives.
Avec vous. Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Trop de boulot. Tu sais si on a une bonne couverture dans cette boîte ?
Ah oui, ici on a le top de la couverture, hein, en lin, en coton et même en marbre. C'est classe, mais c'est un peu froid.
Attendre des siècles une bonne couverture santé pour vos salariés, c'est du passé. Avec Aesio Mutuel, vos collaborateurs bénéficient d'une couverture santé adaptée à leur secteur d'activité et ses obligations et ont accès à des ateliers de prévention sur mesure. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Souscription, informations et conditions sur aesio.fr ou auprès de nos conseillers.
Europe 1.
15h, 16h, au cœur de l'histoire. Virginie Giraud.
Bienvenue sur Europe 1 si vous venez de nous rejoindre. Aujourd'hui, on parle de l'histoire de la mafia. Dans la dernière partie de l'émission, je recevrai l'écrivain Jacques de Saint-Victor qui viendra nous parler de l'évolution de la mafia en Italie entre le 19e et le 20e siècle. Il va nous faire des révélations étonnantes. Mais avant, on finit l'histoire d'Al Capone. La police est bien décidée à le mettre derrière les barreaux. Inutile de chercher un flagrant délit. Il faudra être plus malin que ça. Et ça, c'est le travail d'Eliot Ness. Le cinéma se moralise avec l'application stricte du code Eyes. Le code Eyes est tout simplement un guide de censure qui vient mettre du plomb dans l'aile de l'âge d'or du cinéma. Eh oui, les films ne doivent en aucun cas heurter la morale des spectateurs. Et qui sont les boucs émissaires du code Eyes ? Les femmes, bien sûr. Plus de nudité, plus de lascivité, plus de sexe. Et pour les hommes, l'homme à abattre, c'est bien sûr le gangster. Maintenant, c'est la police qui gagne la partie à la fin du film. Dans l'ombre, il y en a un qui a œuvré pour ça. J. Edgar Hoover, le tout-puissant patron du FBI, se sert des médias et du cinéma pour ringardiser les gangsters, les voleurs et tous les repris de justice au profit des policiers qui deviennent les nouveaux super-héros. Al Capone ne peut plus inspirer des héros de cinéma triomphants, mais les films de gangsters continuent à être produits. De toute manière, maintenant que l'Amérique vit de plein fouet la crise économique et que les plus miséreux crèvent la faim, le public ne supporte plus les débauches de luxe de Capone avec ses costumes trop bien coupés et ses dessous en soie. Il n'incarne plus le self-made man, mais un profiteur malfaisant. Sa cote est en berne. C'est à ce moment-là que la police commence à s'intéresser de très près à Al Capone. Quel triomphe ce serait de le mettre en prison. Quel coup de pub. Et c'est là qu'entre en scène Eliot Ness. Son nom vous dit peut-être quelque chose à cause du cinéma, parce que Kevin Costner a joué ce personnage dans Les Incorruptibles de Brian De Palma en 1987. Eliot Ness fait partie du FBI, enfin, plus précisément, du service de police fédérale du département du Trésor des États-Unis. C'est la police du fisc, si vous voulez. Oui, je sais, c'est pas aussi glamour que ce que vous vouliez, mais c'est comme ça. Bref, Eliot Ness fait partie d'une équipe réputée incorruptible, en d'autres termes pas achetable, qui enquête sur l'évasion fiscale. Le seul à pouvoir faire tomber Capone, c'est le fisc. Le reste, les crimes, tout ça, c'est trop opaque. Même Hoover, qui sait tout sur tout le monde, ne veut pas mettre le doigt là-dedans. Eliot Ness et son équipe parviennent à se procurer des livres de comptes et à trouver quelques témoignages qui prouvent que Capone brasse des centaines de milliers de dollars par an et qu'il ne paye pas ses impôts. Bon, selon les historiens, Eliot Ness lui aussi a été starisé, mais il n'est qu'un élément de l'institution qui a fait tomber Scarface. Le 5 juin 1931, Al Capone est mis en examen pour fraude fiscale depuis 1925. Il doit au bas mot 250 000 dollars à l'État. Le mafieux est confiant. Il pense plaider coupable et s'entourer avec 2 ans de prison, grand maximum. Mais le juge fédéral lui impose un procès devant un tribunal fédéral en octobre 1932. Une fois que les jurés ont été sélectionnés, Capone envoie ses hommes les acheter. Plusieurs d'entre eux acceptent cet argent. Mais l'outfit de Chicago était alors infiltré par la police et les juges sont mis au courant des manœuvres de Scarface. Le premier jury est dissous et un autre le remplace. Cette fois, aucun de ses membres n'est corrompu. Le 18 octobre 1932, après 8 heures de délibération, Al Capone est jugé coupable d'évasion fiscale et écope de 11 ans de prison. Scarface est d'abord incarcéré à la prison d'Atlanta. Moyennant quelques pots de vin, sa cellule se transforme rapidement en chambre d'hôtel 5 étoiles. Il est libre d'écouter la radio, de fumer ses cigares et de porter les pyjamas de soie qu'il affectionne. Mais en 1934, les États-Unis ouvrent une nouvelle prison fédérale de haute sécurité, la prison d'Alcatraz. Alcatraz est une île qui se trouve au large de San Francisco, dans le Pacifique. Elle fait moins d'un kilomètre carré et elle tient son nom d'un vieux mot espagnol, Los Alcatraces, qui désigne les pélicans qui vivaient sur cette île désolée. Au XIXe siècle, on y avait construit un fort qui est devenu une prison militaire au début du XXe siècle et enfin, une prison de haute sécurité en 1934. Ce lieu, dont il était impossible de s'évader, devait donner la chair de poule aux gangsters, du moins, c'est ce que les fédéraux espéraient. Al Capone pouvait faire une pub inespérée à cet établissement. Voilà pourquoi on le déplace là-bas. Il traverse donc le pays en train. Bon, en réalité, on croirait une tournée de stars. Les badauds se massent dans les gares où le train s'arrête pour espérer apercevoir Scarface. L'arrivée à Alcatraz est brutale. Al Capone se heurte à un directeur d'établissement qui impose à l'empereur des bootleggers de vivre comme un détenu normal, à la dure. Reclus dans sa cellule, Capone perd vite de sa superbe. Il décline. En réalité, il souffre des derniers effets de la syphilis qui le ronge depuis 20 ans. La maladie détraque son système nerveux et Scarface sombre dans la démence. Al Capone bénéficie d'une remise de peine. Il sort de prison en 1939. Un médecin l'ausculte alors. Selon lui, Scarface a maintenant les capacités cognitives d'un enfant de 12 ans. Le brillant chef de l'outfit de Chicago n'existe plus. Le plus grand mafieux du XXe siècle prend sa retraite en Floride auprès des siens où il meurt à l'âge de 48 ans en 1947. L'outfit de Chicago est dès lors assez solide pour vivre sans son chef. Les seconds ont pris le relais. Ils s'appellent Frank Nitti, Paul Ricca, Tony Accardo et Sam Giancana. Ces hommes ont contribué à l'essor de Las Vegas dans les années 1950. Ils ont tissé des liens aussi solides qu'opaques avec les maîtres de l'Amérique. Sam Giancana gravite dans l'entourage de John Fitzgerald Kennedy, par exemple. D'ailleurs, certains pensent en Amérique que Giancana a pris sa part dans le complot pour assassiner JFK. Quant à l'outfit de Chicago, eh bien, il existe toujours. Il est beaucoup moins puissant qu'il ne l'a été autrefois. Mais ça, ce n'est plus de l'histoire. Et on n'aime pas les balances dans le milieu. Quel personnage, ce Scarface ! On reste sur l'histoire de la mafia avec l'écrivain Jacques de Saint-Victor qui a enquêté sur les boss italiens. On reste ensemble sur Europe 1.
Voyagez au cœur de l'histoire de 15h à 16h sur Europe 1.
Bonjour, c'est Pascal Pro sur Europe 1.
Oui, bonjour Pascal.
Ce qui compte, c'est vous.
Je pense que vous êtes la voix de personnes qui n'osent rien dire et qui sont majoritaires quand même dans ce pays.
Il faut se réveiller un petit peu à un moment donné.
Je sors pas le soir non accompagné.
Est-ce que c'est normal ?
Pascal Pro et vous.
Merci d'être comme vous êtes tous, au cœur des choses.
Alors je vous attends de 9h à 9h30 et de 11h à 13h. À demain sur Europe 1.
En 2024, les enjeux pour l'économie du sport en France sont nombreux. Comment cette année sportive servira-t-elle de vitrine aux entreprises tricolores ? Réponse ce mardi dès 21h sur Europe 1 dans La France bouge, présentée par Elisabeth Assayag, avec Alain Di Crescenzo, le président de CCI France, en partenariat avec la CCI Bayonne Pays Basque.
Toutes vos émissions préférées en replay
sont disponibles sur l'application Europe 1.
Depuis 20 ans, l'association Don Solidaire rend possible la distribution des produits d'hygiène auprès des personnes en situation de précarité. Aujourd'hui, grâce à Don Solidaire, Alia n'a plus à choisir entre manger ou acheter des couches pour sa fille. Chloé peut aller en cours sans crainte, même si elle a ses règles. Rejoignez notre chaîne de solidarité sur donsolidaire.fr.
Et tout de suite, place à la musique. On écoute I Want You. C'est pas moi qui le dis, ça, c'est Bob Dylan.
Size, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you,
C'était I Want You de Bob Dylan.
Europe 1.
15h, 16h, au cœur de l'histoire. Virginie Giraud.
Vous écoutez toujours au cœur de l'histoire sur Europe 1. Aujourd'hui, je vous parle de la mafia. Après Al Capone, on va se pencher sur l'histoire étonnante de la mafia italienne avec Jacques de Saint-Victor, un écrivain spécialiste de ce sujet. Bonjour Jacques de Saint-Victor.
Bonjour.
Qu'est-ce qui distingue la mafia d'autres formes de crime organisé ?
Alors la mafia, c'est ce qu'on pourrait appeler une aristocratie du crime organisé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'organisations criminelles. Ça va de la modeste bande de banlieue jusqu'aux gangs. Maintenant, on a même des méga-gangs en Amérique latine. Et la mafia, c'est un peu ce qu'on pourrait dire l'organisation la plus puissante, parce qu'on ne peut parler vraiment de mafia que lorsque ces organisations criminelles ont des liens extrêmement étroits avec leur environnement politique, économique, sportif, enfin tout le tissu social qu'elles parviennent à corrompre. Donc les mafias, c'est vraiment la structure la plus puissante dans le monde du crime organisé.
Il y a un code de l'honneur dans la mafia ou c'est un fantasme véhiculé par le cinéma ?
Oui, c'est un grand fantasme véhiculé par le cinéma. Ce qu'il y a, c'est que, évidemment, pour réussir à fédérer un groupe, il faut qu'il y ait un certain nombre de règles que l'on ne peut pas enfreindre. Donc c'est peut-être ça qu'on peut appeler le code de l'honneur, mais c'est un code de l'honneur toujours évidemment pervers et qui n'a rien à voir avec ce qu'on imagine, notamment les grandes actions, la belle chevalerie ou tout ça, c'est de la pacotille, si vous voulez. La réalité, c'est que ce sont des organisations sordides tournées uniquement et essentiellement vers le profit.
Est-ce qu'on peut dire que le film Le Parrain de Coppola, qu'on a tous plus ou moins en tête, serait réaliste avec le chef de famille, le patriarche ?
Non, alors le film de Coppola, qui est très beau sur le plan cinématographique et qui est d'ailleurs inspiré d'un très beau roman lui aussi, de Mario Puzo, c'est pas du tout comme ça que fonctionne une organisation mafieuse, surtout aux États-Unis. Puisqu'en réalité, ce qu'a voulu faire Coppola, parce que sinon ça n'aurait pas été dramatique, c'est de faire croire que cette mafia, c'est une famille, au sens de lien de sang. En réalité, les familles, le nom que l'on donne aux familles, notamment à New York, on dit il y a 5 familles qui contrôlent New York, mais le mot famille doit être en fait traduit par le mot entreprise. Ce ne sont pas des familles de sang. Et donc c'est ce qui rend le film Le Parrain totalement faux, même s'il reste un très très beau film, évidemment.
Alors maintenant qu'on comprend un peu mieux la définition de la mafia et qu'on a détruit quelques clichés, la fameuse chevalerie de la mafia,
beaucoup, oui.
Mais déjà celui-là, vous voyez, moi je l'avais déjà en tête. Comment apparaît la mafia? Où est-ce qu'elle naît?
Alors la mafia apparaît dans le sud de l'Italie au début du 19e siècle pour des raisons qui sont à la fois économiques et politiques. Et c'est pour cette raison double qu'elle apparaît dans cette zone particulièrement marquée à la fois par des changements économiques extrêmement brutaux, le passage d'un monde très féodal, car le sud de l'Italie est beaucoup plus encore marqué que la France de l'époque par la féodalité, et en même temps des révolutions politiques. On va l'expliquer, j'imagine, les deux, mais c'est cette double raison qui explique qu'elle apparaît dans cette zone, et non pas ce qu'on a souvent cru dans les années 1970 avec une anthropologie très méridionaliste, parce qu'il y aurait le poids de la famille, le poids des traditions, enfin tout un ensemble de choses qui ont pu jouer, si vous voulez, à la marge, mais qui ne sont pas les raisons profondes de la naissance de ces organisations criminelles.
Et oui, parce que l'Italie au XIXe siècle, c'est un contexte politique
Absolument.
Très particulier, c'est le Risorgimento. Vous pouvez nous dire en un mot de quoi il s'agit?
Oui, le Risorgimento, en fait, surgit à la suite de l'occupation par les troupes françaises de Napoléon de l'Italie, et une fois qu'il y a le congrès de Vienne et que l'Italie revient à la fois à ses petites principautés dans le nord et au royaume de Naples, au royaume des Bourbons dans le sud, eh bien, beaucoup de libéraux, mais ce terme devrait être d'ailleurs précisé, ont l'ambition de revenir, de recréer une Italie unifiée qu'avait plus ou moins tenté de mettre en place Napoléon Ier. Et du coup, ce courant libéral s'oppose à la monarchie des Bourbons. Et dans le cadre de cette opposition entre les élites libérales, souvent d'ailleurs des élites très aristocratiques et qui possèdent d'extrêmement grands domaines, notamment en Sicile. La Sicile, tout le monde le connaît avec Lampedusa, c'est la terre des barons. Et ces grandes familles, eh bien, elles s'appuient en réalité sur un monde obscur, le monde du crime, qu'elles vont au fond organiser et par la suite qu'elles ne vont pas complètement maîtriser. Et c'est ce retournement qui va expliquer la naissance de ces organisations criminelles. Ce sont des structures criminelles au départ utilisées par les barons à des fins, disons, libérales d'indépendance vis-à-vis de la monarchie des Bourbons et qui, par la suite, vont devenir tellement puissantes qu'elles vont se retourner contre ces mêmes barons.
Ça fait penser un peu au film Le Guépard, finalement, la fin de l'aristocratie, un film avec Alain Delon
Absolument.
Et Claudia Cardinal, sublime. Oui. Donc, c'est ce contexte si particulier, économique, d'un monde en mouvement brutal, finalement, qui devient le terreau fertile de la naissance de la mafia.
Oui, absolument. Et le film Le Guépard, d'ailleurs, explique très très bien, sans que le mot mafia ne soit jamais prononcé, car à l'époque, il était presque impossible d'utiliser ce terme à la fois localement et même dans le cinéma, puisqu'on commence vraiment à parler de la mafia au cinéma dans les années 70, avec justement Le Parrain.
Alors justement, ces mafieux, c'est une constellation. Ils viennent de quel milieu social? Parce que j'imagine que finalement, on balaye assez large entre le boss qui est au sommet de la pyramide de la chaîne alimentaire et les, enfin, je sais pas comment on appelle les petits mafieux qui sont en bas de l'échelle.
Les picciotti, on dit, oui. Oui, absolument. Et ça, c'est quelque chose qui est le plus intéressant dans l'histoire de la naissance de la mafia. La mafia ne naît pas, contrairement à l'image que l'on a souvent, dans un monde populaire. Elle naît, au contraire, dans un monde bourgeois. Alors, il faut bien distinguer, évidemment, ce qu'on appelait au XIXe siècle la haute mafia et la basse mafia. Évidemment, la basse mafia, c'est des hommes de main qu'on prend évidemment dans les classes, disons, les plus modestes de la société. Mais la haute mafia, c'est-à-dire celle qui est à l'origine de la naissance de ces grandes sociétés secrètes, elle naît dans la bourgeoisie, au moment justement où s'opère ce passage entre l'économie féodale et l'économie capitaliste. C'est-à-dire que, en réalité, ces grands bourgeois qui commencent à comprendre qu'ils vont pouvoir prendre la place des aristocrates, eh bien, se mettent à la tête de ces sociétés secrètes et sont à l'origine d'un processus qu'un baron toscan, qui est vraiment le meilleur analyste de la naissance de la mafia, qui s'appelle le baron Franchetti, a appelé la démocratisation de la violence. C'est-à-dire que la violence, qui était dans le monde féodal un monopole des seigneurs et donc des grands propriétaires terriens, va se démocratiser et va désormais être contrôlée par ces nouvelles bourgeoisies sans scrupules, qui constituent donc les premières structures qui vont donner naissance aux organisations mafieuses.
Mais alors, est-ce qu'il y a un lien au XIXe siècle entre la franc-maçonnerie, les carbonari et la mafia?
Absolument. C'est-à-dire que les sociétés secrètes libérales, comme par exemple la franc-maçonnerie ou les carbonari, parce que c'est un peu différent, mais c'est, disons, le même processus, c'est réussir dans des sociétés secrètes à essayer de combattre la monarchie des Bourbons, eh bien, elles vont se trouver infiltrées et détournées de leur orientation, de leur but, soit but philosophique pour la franc-maçonnerie, soit but politique pour les carbonari, à des fins purement de prédation. Car on comprend qu'on peut très facilement contourner le système libéral nouveau qui se met en place en créant des sociétés secrètes qui peuvent être beaucoup plus puissante pour corrompre les règles classiques du marché. Car si vous êtes derrière, et tout le monde s'entend dans l'adjudicataire, le notaire, tous les participants et les personnes qui jouent un rôle dans la chaîne économique, eh bien, si vous contrôlez toute cette chaîne en secret, eh bien, vous pouvez parfaitement contrôler le libre marché, en réalité, et vous le détournez complètement de son objectif.
Alors, on peut revenir un peu sur ce système économique de la fin du 19e siècle en Italie. En quoi il se modernise brutalement ?
Alors, c'est plutôt au début du 19e, en réalité, qu'il y a un passage entre ce monde féodal et une économie capitaliste qui apparaît très rapidement dès que les troupes napoléoniennes abolissent le système féodal. C'est beaucoup plus brutal qu'en France. Pourquoi ? Parce qu'en France, quand on abolit le 4 août 1789 la féodalité, en réalité, depuis le 13e siècle, dans la plupart des régions françaises, elle était déjà morte. Alors qu'en Sicile et même dans tout le sud de l'Italie, la féodalité est encore très puissante. Donc les barons contrôlaient complètement les terres. Et du jour au lendemain, en 1806, dans la partie continentale du Royaume de Naples et en 1812 en Sicile, on abolit du jour au lendemain ce système féodal. Alors qu'est-ce que ça provoque ? Je résume parce que c'est évidemment un processus très complexe. Ça fait un peu la même chose que ce qui s'est passé en Russie au moment de la chute du mur. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous avez une économie libérale qui s'implante sur un monde qui n'est pas du tout habitué à cette économie libérale. Il n'y a pas les structures bancaires, il n'y a pas les structures en termes de titres de propriété, il n'y a pas tout ce qui faisait dans des pays comme l'Angleterre ou la France le passage lent et facile d'une économie féodale à une économie capitaliste, eh bien ça n'existe pas. Du coup, il y a un vide. Et donc, ce vide crée un appel d'air criminel parce que, eh bien, ceux qui sont les plus brutaux, ceux qui sont les plus puissants, qui n'hésitent pas à utiliser les mécanismes les plus criminels, ces entrepreneurs de la violence, comme on va les appeler, eh bien, ils peuvent s'implanter très facilement parce que la fin de la féodalité a créé, notamment, par exemple, la vente de très grands domaines qui étaient protégés par le système féodal. Je rentre pas dans les détails parce que c'est un peu technique juridiquement parlant, mais qui font que quand il n'y a plus ce système féodal, eh bien, ces grands domaines sont à l'encan. Il faut les vendre parce que plus personne, le droit ne les protège plus. Et donc, ça va créer, si vous voulez, un immense marché des terres. Et sur ce marché des terres, eh bien, va prospérer des organisations criminelles naissantes qui vont s'inspirer des loges maçonniques et des carbonari du mouvement libéral pour créer des sociétés secrètes. Car il n'y a pas de mafia sans cette notion de société secrète. C'est ce qui fait que dans certaines régions, je pense par exemple à la Corse, où il y a des organisations criminelles, mais il n'y a pas eu la démonstration faite dans les archives qu'il y ait vraiment de sociétés secrètes. Donc, on peut parler de phénomène mafieux, mais pas nécessairement de mafia.
Si j'étais un petit peu provocatrice, je pourrais dire que la mafia, c'est un petit peu des capitalistes sauvages. On pourrait résumer les choses comme ça ?
Oui, absolument. La différence entre le capitalisme, normalement, c'est ce qu'on appelle, selon la définition de Max Weber, de l'entrepreneur, vers une destruction créatrice, donc créatrice de richesse, alors que la mafia, c'est ce qu'on appelle la prédation pure et dure. C'est-à-dire que c'est une création de richesse que s'accaparent les mafieux uniquement pour eux-mêmes. Et donc, c'est quand même différent du capitalisme. Mais c'est vrai que le capitalisme libéral permet à cette mafia de prospérer.
Comment est perçue la mafia par les gens à l'époque, au 19e siècle, cette première mafia ?
Oui, alors un petit peu comme elle l'est encore aujourd'hui dans certaines régions, en Calabre encore, et dans certaines régions de la Campanie. C'est-à-dire que les gens en ont à la fois peur, et puis il y a une telle défiance de l'État qu'on se dit qu'après tout, pourquoi pas la mafia ? Et on peut dire que la mafia, et c'est là-dessus qu'elle prospère, crée ce qu'on appelle du consensus social. Parce que elle opère sur le vide ou, disons, sur l'absence de l'État ou l'échec de l'État. Il y a eu un très grand échec de l'État libéral au moment du Risorgimento. Et cela fait que les populations locales se disent, après tout, le boss, lui au moins, il me donne du travail. Parfois même, il m'apporte une aide, donc il joue un rôle de protection sociale, ce que l'État libéral ne faisait pas. Et donc, on l'a bien vu au fur et à mesure de l'évolution de l'histoire de la mafia, quand l'État est fort, paradoxalement, la mafia est faible. Et c'est quand l'État s'affaiblit que la mafia prospère. Et donc, à la fois au XIXe siècle comme aujourd'hui, la mafia est assez puissante.
Vous avez commencé à en dire un mot tout à l'heure. La mafia, pour être puissante, doit avoir un maillage social assez étroit dans différents domaines de la société. Comment se rapproche-t-elle notamment du politique? Puisqu'on a le sentiment que c'est totalement antinomique, la mafia et la politique. Enfin, disons qu'on est censé avoir une probité au-dessus de tout quand on est un politique.
Oui, bien sûr. Disons que la politique, notamment à ses origines, on apparaît dans un univers, je le disais, très troublé. Et donc, les politiques eux-mêmes ont eu besoin par moment de s'appuyer sur des groupes de pression, et les groupes criminels font partie de ces groupes de pression. Donc au départ, il y a eu, si vous voulez, un lien peut-être de dépendance, c'est-à-dire que les mafias c'était simplement des hommes de main de ces groupes politiques importants, mais petit à petit, ils sont devenus de plus en plus puissants, et c'est là où il y a quelque chose de terrible, mais qu'il faut dire, c'est que le processus de démocratisation qui est apparu en Italie plus tardivement qu'en France à partir des années 1880 et surtout 1912, eh bien, ce processus de démocratisation va permettre aux mafias de s'insérer complètement dans le monde politique. Elles vont d'abord occuper des postes dans les conseils généraux, régionaux, enfin, ce qu'on appelait comme ça à l'époque.
Mais ils sont élus pour arriver là?
Élus, bien sûr. Mais puisqu'ils génèrent du consensus social, comme je le disais, eh bien, on va voter pour le boss. Mais ça, c'est dans un deuxième temps, c'est-à-dire le moment où, justement, ces mafias se sont tellement bien insérées dans le système social qu'elles sont respectées. Et ça peut arriver très souvent que, encore aujourd'hui, vous allez dans le sud de l'Italie et vous demandez à des jeunes gens qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard, et vous avez des jeunes filles qui vous répondent, ça m'est arrivé donc dans un lycée, femme de boss.
Parce que c'est une bonne situation.
Ben oui, c'est la personnalité un peu respectée et riche de la région.
Oui.
Et donc, ce processus d'infiltration du monde politique a prospéré. Il a été bloqué plus ou moins, d'ailleurs il y aurait beaucoup à dire, par le fascisme, et il reprend son essor avec la guerre froide. Parce que la mafia est la principale arme qu'utilisent dans le sud de l'Italie les forces en place pour combattre les communistes.
Je voudrais revenir sur un point que vous avez évoqué tout à l'heure. Vous disiez, quand le pouvoir est fort, le pouvoir de la mafia diminue. Et ça a été le cas notamment à l'époque de Mussolini, pendant le fascisme italien. Alors, intuitivement, on pourrait se dire, est-ce que le fascisme italien est plus intègre que les autres régimes italiens? Vous voyez, je ne voudrais pas qu'on fasse un raccourci comme ça.
Oui, absolument, vous avez parfaitement raison. Le meilleur exemple, si vous voulez, de la diminution du pouvoir de la mafia, ce n'est pas cette époque du fascisme, j'y reviendrai, c'est le moment de la grande force de l'État-providence dans les années 60-70. Surtout les années 60. C'est ce moment-là où on a vu un certain nombre d'organisations mafieuses, notamment, c'était très frappant à la fin des années 60, des organisations mafieuses qui devenaient très peu attirantes pour les gens parce que l'État était lui-même très fort et très redistributif. Alors, la question du fascisme est assez complexe, mais a été très bien étudiée. Aujourd'hui, il est vrai que le fascisme a d'abord combattu la mafia jusqu'en 1929 parce qu'il s'est attaqué à ce qu'on a appelé justement la basse mafia, c'est-à-dire les petits groupes criminels, et beaucoup de ces chefs de petits clans criminels ont dû immigrer aux États-Unis, et c'est d'ailleurs là qu'ils ont reconstitué de nouvelles familles, je pense à Joe Bonanno ou autres, qui sont devenus des très grands mafieux américains. Mais en réalité, en 1929, quand le préfet Maury, qui est chargé par Mussolini d'attaquer la mafia, commence à taper dans ce qu'on appelle la haute mafia, c'est-à-dire des membres des très grandes familles siciliennes qui sont des chefs cachés, évidemment, mais de familles mafieuses, là, tout d'un coup, tout s'arrête. Mussolini renvoie le préfet Maury, et à ce moment-là, dans les années 30, on voit se reconstituer, sous le couvert du fascisme, la puissance de la mafia. Donc en réalité, le fascisme n'a joué qu'un rôle très ambigu vis-à-vis de la mafia. C'est plutôt quand un État vraiment distributif, comme l'a été l'État italien dans les années 60, a joué un rôle, avec un rôle d'ailleurs ambigu, parce qu'il y avait beaucoup d'assistanat, hélas, et c'est ce qui va provoquer d'ailleurs la chute de cette logique de l'État-providence en Italie. Et à partir des années 70-80, c'est sur l'échec de cet État-providence assistentiel, comme on dit en italien, qu'on va voir à nouveau les mafias prospérer. Parallèlement à ça, il est vrai aussi que l'explosion du trafic de drogue va donner à ces mafias des richesses tellement importante que, évidemment, tout va changer à ce moment-là.
Donc le parrain favorise la redistribution sociale, ce qui fait partie de son succès auprès du peuple, si je comprends bien.
D'une certaine manière, indéniablement, quand il n'y a plus beaucoup de postes, par exemple, offerts par l'administration, eh bien, vous avez l'organisation du boss qui vous donne des travaux. Alors, c'est un travail extrêmement peu, honnête, puisqu'il s'agit de faire, je ne sais pas, trafiquant de drogue ou autre. Mais au moins, vous avez un travail et c'est ce qui fait que, l'organisation criminelle jouit d'un certain consensus social.
C'est exactement ce qu'on m'a expliqué lors de mes voyages à Naples, d'ailleurs.
Mais oui, hélas.
Alors, pour lutter contre la mafia, il faut un système de justice qui fonctionne, qui ne soit pas corrompu. Est-ce qu'il y a eu à un moment de l'histoire une justice qui était en collusion avec la mafia ?
Alors en réalité, quand on regarde vraiment les grands procès criminels qui ont eu lieu au 19e et au début du 20e siècle, la justice n'est pas tellement corrompue. C'est pas tellement ça. Mais c'est que le droit est inadapté au crime organisé. Le droit libéral qui est né après la Révolution française, et les Italiens se sont inspirés de notre droit post-révolutionnaire, c'est un droit qui est totalement individualiste, et donc qui essaye de voir qu'est-ce que chaque acteur a véritablement joué comme rôle, et on a ce qu'on appelle l'individualisation de la peine. Face à des organisations criminelles qui se répartissent les rôles, qui d'ailleurs peuvent utiliser les témoins, qui mentent, etc., la justice est dépourvue. Et il a fallu attendre les années 1980 pour que l'Italie puisse combattre efficacement la mafia en se dotant justement de règles spécifiques concernant les associations mafieuses. Chose que d'ailleurs nous n'avons toujours pas en France. Et c'est ce qui va expliquer que la justice a énormément échoué jusqu'au grand procès, les fameux maxi-procès avec le juge Falcone et le juge Borsalino des années 1980.
Alors la mafia s'est exportée en dehors de l'Italie, parce que quand on parle mafia, la première image qui nous vient à l'esprit, c'est Al Capone. Comment s'est faite cette translation de la mafia vers les États-Unis ?
Absolument, elle s'est faite tout simplement, disons, vers la fin du 19e siècle, où quand il y a eu énormément d'immigration italienne, plus d'un million de Siciliens partent aux États-Unis dans les années 1890-1900, eh bien, les mafieux ont eux-mêmes suivi le mouvement, si vous voulez. Ils ont constitué des sortes de filiales. Au départ, c'était vraiment des filiales de clans mafieux. On en suit parfois certains. Je travaillais sur un clan à la Nouvelle-Orléans qui est la filiale et porte le même nom que le clan d'une famille de Montréal à côté de Palerme. Et donc, au départ, ce sont des simples dépendances. Et puis, vous savez ce que c'est ? Au fur et à mesure des générations, Al Capone, par exemple, c'est une deuxième génération. Donc, ça devient des mafias autochtones qui ont conservé, et c'est ce qui va faire leur puissance, leur mode de fonctionnement. Et c'est ça qui va faire qu'ils sont beaucoup plus puissants que, par exemple, les gangs polonais, les gangs juifs ou les gangs d'autres nationalités qui opèrent aux États-Unis. C'est parce qu'ils ont la structure et la logique de société secrète de ces mafias qui viennent d'Italie.
Merci Jacques de Saint-Victor. Grâce à vous, on comprend beaucoup mieux la mafia, qui est moins effrayante du coup.
Je sais pas. Non, je pense qu'elle doit rester quand même très effrayante.
Si nos auditeurs veulent en savoir plus sur la mafia, je conseille votre livre « Un pouvoir invisible, les mafias et la société démocratique » paru aux éditions Gallimard. Au cœur de l'histoire, c'est terminé pour aujourd'hui, mais je vous retrouve dès samedi prochain pour parler de l'histoire de la Russie, de Catherine II jusqu'à Poutine. Ça va être une sacrée épopée, je vous le dis. Mais d'ici là, je vous retrouve quand vous voulez en podcast sur votre plateforme préférée, car Au cœur de l'histoire sort d'abord en podcast et c'est gratuit. Cette semaine, par exemple, je vous raconte le destin exceptionnel de Madame Royale, la fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Vous saviez que c'était la seule à avoir survécu à la Révolution française ? Elle a vécu l'enfer et c'est pour ça qu'on la surnomme la comtesse des ténèbres. Et d'ailleurs, il y a du changement sur Europe 1. À partir de demain, vous allez retrouver Pierre de Villeneuve pour Europe 1 Soir de 19h à 21h. C'est une nouvelle formule qui vous attend avec 2 heures d'actualité pour préciser, décrypter et débattre de l'information de la journée avec des invités et des voix d'Europe 1. Europe 1 Soir de 19h à 21h est donc présenté maintenant par Pierre de Villeneuve dès demain. Et maintenant, vous retrouvez Sophie et les copains pour les meilleurs moments de la semaine. Je vous souhaite un bon dimanche. À bientôt sur Europe 1.
Savez-vous comment on reconnaît une insuffisance cardiaque ? Non ? Vous n'êtes pas seul. Parce que des centaines de milliers de Français qui vivent avec cette maladie ne le savent pas non plus. Essoufflement inhabituel ?
Prise de poids rapide? Pieds et chevilles gonflés? Fatigue excessive? Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, surtout après 60 ans, vous souffrez peut-être d'insuffisance cardiaque. Parlez-en à votre médecin.
L'assurance maladie.
Visio Confucius. Tu vois, toi qui travailles à ton compte, la mutuelle de demain te permettra d'être indemnisé si t'es arrêté.
Ok, ben ta mutuelle de demain m'aurait bien servi aujourd'hui en fait, parce que là, mes clients, ils comprennent rien à ce que je dis.
Être obligé de travailler quand on est arrêté, c'est du passé.